RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, première audience lundi au sein du nouveau palais de justice de Paris qui ouvre ses portes dans le quartier des Batignolles, dans le nord de la capitale française. Depuis plus de 2000 ans, la justice parisienne était exclusivement rendue sur l'île de la Cité. Ces prochaines semaines, le tribunal de grande instance va donc progressivement quitter le vieux palais de justice, un palais qui a connu tous les soubresauts de l'histoire de France. De la Cité aux Batignolles, grand reportage. Signé Franck Alexandre.
Nous sommes en haut de la grande cour d'honneur qu'on appelle la cour du Mai, qui donne sur le boulevard du Palais.
Île de la Cité, les marches du palais, antichambre du tribunal. On y vient fumer, tout le monde s'y croise, prévenu, magistrat, avocat. Yves Ozanam, l'archiviste de l'ordre, est à nos côtés, tel un patriarche. Barbe blanche et cheveux en bataille, véritable mémoire des lieux. Il est notre guide et tout commence, cour du Mai, à l'ombre de la Sainte-Chapelle.
Ah, la cour du Mai, elle est riche de mille anecdotes parce que dès que le grand escalier a été conçu, c'est là, par exemple, que, à la fin de l'affaire du collier, la comtesse de Lamotte s'est vue marquée au fer rouge. C'était au petit matin. Elle s'est débattue très violemment pour la plus grande joie des badauds qui regardaient le spectacle à travers la grille. C'est là aussi, on a des arrêts du Parlement qui condamnent des livres censurés à être brûlés au bas des marches du grand escalier de la cour du palais de justice. Donc, le grand escalier, s'il pouvait parler, aurait plus de 2 siècles d'histoire judiciaire à vous raconter.
Le préteur romain rendait la justice. Les Romains étaient installés ici avec leurs troupes.
Le procureur Étienne Madrange nous rejoint. Magistrat honoraire, le palais, il en connaît les moindres recoins.
Donc, vous voyez l'évolution. Un palais militaire romain, où on rend la justice également. Une forteresse médiévale. Un palais royal sous Saint-Louis et son petit-fils Philippe le Bel qui ont fait un très très beau palais au niveau européen. Un endroit où l'on vient de toute l'Europe parce qu'il y a les reliques de la Passion. Tous les souverains sont catholiques donc ils viennent tous vénérer la Sainte Couronne d'Épines. Donc un lieu central, une capitale européenne. Un roi de France qui quitte par peur de Paris un petit peu, par peur des émeutes, qui quitte ce palais et qui se rend au Louvre. Et donc un édifice qui demeure jusqu'à nos jours, 21e siècle, un palais de justice.
On monte les marches et on y rentre.
Eh bien on y va.
Et là on arrive donc dans cette galerie marchande du palais de justice.
Alors nous sommes dans une galerie qu'on appelle la galerie marchande, qu'on appelle également la galerie mercière. Mercière parce qu'il y avait des merciers, donc des marchands. Et vous voyez que c'est toujours une zone de passage où on entend passer beaucoup de gens, beaucoup d'archives, beaucoup de dossiers. Alors l'un de nos grands auteurs, Corneille, a consacré une pièce à cette galerie. Et cette pièce s'appelle la Galerie du Palais. Il faut imaginer que dans cette galerie qui avait été inventée par Saint-Louis pour rejoindre la Sainte-Chapelle, ça lui permettait d'aller de son logis jusqu'à la Sainte-Chapelle. Il allait très 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 souvent à la messe, en tout cas tous les jours, il était très pieux. Alors, petit à petit, cette galerie a été occupée par des boutiques, donc des merciers, des marchands. Pourquoi ? Ben, il fallait bien qu'à une époque, le palais puisse vivre. Il fallait des finances. Donc l'idée était d'accueillir des boutiquiers, de leur demander une taxe, une patente, une redevance en quelque sorte. Et donc, les boutiques se sont installées. Et on a pu compter au palais de justice de Paris jusqu'à 350 boutiques. Il y avait ici des vendeurs de perruques, des libraires, des éditeurs, des vendeurs de chaussures, de colifichets, de jouets. On venait d'Italie, on venait d'Allemagne pour acheter de très jolies choses dans cette galerie mercière.
Yves Ozanam.
Dans les années 80, pour m'en tenir à des souvenirs personnels, il y avait encore une petite banque, un petit papetier, un bureau de poste également. Tout ça a disparu au fur et à mesure et aujourd'hui, vous n'avez plus aucun marchand. Très symboliquement, on avait même un distributeur automatique de billets qui vient d'être retiré. C'est vous dire que toute activité commerciale est maintenant bannie de cette galerie.
Galerie marchande, on longe un petit cabinet médical pour justiciables stressés. Puis l'on passe devant les bureaux de la presse judiciaire, la même où Raymond Poincaré, Léo Lagrange, Frédéric Potcher écrivaient leurs chroniques. Quelques pas encore, et c'est alors qu'elle apparaît. Immense, voici la salle des pas perdus. Étienne Madrange et son complice, Yves Ozanam, contemplent.
On l'appelait de tout temps la Grand Salle. Il faut dire que la salle des pas perdus du Palais de Justice de Paris, c'est l'une des salles les plus historiques. Alors, c'est une salle qui a une histoire passionnante, parce que d'une part, les rois de France y faisaient leurs banquets, y annonçaient les fiançailles de leurs enfants. François Ier a pu s'y réconcilier avec son beau-frère, Charles Quint.
Elle était peinte en or, en azur, avec les statues de rois de France aux colonnes. C'était un ensemble absolument magnifique.
Alors, sous la Troisième République, c'était également des banquets républicains, 1000, 1500 personnes. Et puis, on trouvait dans cette salle la fameuse table de marbre, cette table autour de laquelle siégeaient les juges. Mais c'est également sur cette table qu'on jouait des pièces de théâtre. C'est ce que raconte Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris.
Des statues de marbre en sont les témoins, et parmi ces hommes de pierre, le fameux Berryer.
Berryer est l'avocat le plus connu du XIXe siècle, pour une raison assez simple, c'est que, indépendamment d'être un grand orateur et un excellent juriste, mais aussi un homme politique, un député, il avait une particularité qu'il a très vite distinguée des autres, c'est qu'il défendait des hommes qui, politiquement parlant, étaient ses adversaires. Berryer était un royaliste légitimiste, défenseur donc de la légitimité de la branche aînée des Bourbons, et était l'adversaire résolu des Orléans, des Bonaparte et des Républicains. Et tout au long de sa carrière, on l'a vu défendre des Orléans, des Bonaparte, des Républicains. Il expliquait que être un homme politique est une chose, mais lorsque vous êtes avocat, vous défendez ceux qui font appel à vous. Des ouvriers typographes, des ouvriers ébénistes lui demanderont de les défendre gratuitement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer, et Berryer leur dira « Faites-moi un chef-d'œuvre de compagnon et ce sera pour moi le plus beau des honoraires ». C'est ce qui en fait encore aujourd'hui une sorte de statut du commandeur.
Ce Berryer monumental est l'œuvre de Chaput, un artiste aussi célèbre que Rodin.
Mais Chaput, il était un petit peu taquin.
Étienne Madrange.
Donc il a représenté ce grand avocat Berryer avec un geste magnifique, un geste de la manche qui symbolise la magnificence, l'éloquence, la grandeur de Berryer. Et puis en même temps, il a réalisé au pied de Berryer deux allégories, dont l'une c'est l'allégorie de l'éloquence, c'est-à-dire une femme qui tient un papyrus et une plume, mais sous le pied de l'éloquence, eh bien il a placé une tortue. Voulant montrer par là que finalement, face à la grandeur de Berryer, il y avait cette lenteur de la justice à laquelle on ne pouvait échapper. Et donc finalement, ce qui était grand, c'était bien Berryer par rapport à cette justice qui n'avance jamais.
Ici, chaque année, se tient la conférence Berryer, un concours d'éloquence où s'affrontent les jeunes avocats, un univers sacré pour les robes noires qui désespèrent de devoir désormais plaider ailleurs qu'au palais de la cité, Gilles-William Golnadel.
Ah bah moi c'est ma jeunesse, hein. J'avais même l'impression que je n'irais jamais au Batignolles, j'espère que j'irai. Mais j'ai aimé. Comme j'ai aucun sens de l'orientation, je m'y perds encore, vous voyez. Donc ça reste pour moi un endroit encore mystérieux et j'avoue que je l'aimais bien. Des amitiés avec les confrères, des rivalités avec les magistrats, la vie.
Maître Olivier Pardo.
C'est plus que des souvenirs, c'est ma vie. C'est ma vie quand j'étais magistrat, c'est ma vie quand j'étais étudiant et que je venais assister aux audiences. Et puis ce qu'il y a de particulier ici, c'est que lorsque vous plaidez, il y a derrière vous des fantômes qui plaident avec vous. Les grands avocats, les grands procureurs, c'est les vibrations qui sont dans ce palais que l'on va perdre.
Pour retrouver ces vibrations, poussons la porte d'une salle d'audience. Nous pénétrons dans la première chambre, l'âme du palais.
C'était là le siège de la justice royale.
Ivo Zanam.
La grande chambre du Parlement de Paris, qu'on appelait aussi la chambre dorée, parce que le roi Louis XII, le prédécesseur de François Ier, avait fait décorer cette magnifique salle d'audience avec un superbe plafond à pendentif dans le plus pur style de la Renaissance italienne, avec des boiseries, des dorures, des tapisseries qui donnaient à cette grande chambre un aspect absolument fastueux. Alors la Révolution a pris un malin plaisir à siéger dans ce lieu de pouvoir de la monarchie.
Et là, on enlève toutes les tapisseries bleues fleur-de-lysée, on les remplace par des décors tricolores.
Étienne Madrange.
On y installe le tribunal révolutionnaire en 1793 avec le président Herman, l'accusateur public Fouquier-Tinville. On y juge Marie-Antoinette, on y juge les Girondins, on y acquitte Marat. Plus de 2000 personnes qui vont passer par là et pour beaucoup d'entre elles être guillotinées.
plus près de nous. Jacques Chirac, sans jamais venir, y a été jugé. Dominique de Villepin, Christine Lagarde ont aussi comparu dans cette salle où le buste de Marianne, entouré de fleurs de lys, préside symboliquement les audiences. Yves Zanam.
C'est là une spécificité du Palais de la Cité. On ne fait pas du passé table rase. Au contraire, on accumule, on empile. Et c'est pour ça qu'un visiteur du palais trouvera partout des couronnes et des fleurs de lys, des aigles napoléoniens et des Mariannes républicaines. Le Palais de Justice de Paris, il est, comme l'on dit, préservationniste.
Dissimulé dans les boiseries de la première chambre, une porte dérobée. Elle mène à un escalier à vis. Par là, on peut accéder au tour de la conciergerie avec nos guide Yves Ozanam et Étienne Madrange, nous l'empruntons pour un saut dans le passé.
Lorsque nous pénétrons dans la cage d'escalier, nous avons d'abord une grille qui prévient toute velléité de vouloir descendre à la conciergerie.
On est ici dans un décor médiéval, effectivement, devant la tour qu'on intitule à tort la tour d'argent, parce que ce qu'on appelle la tour d'argent, c'est la tour César. Ce que l'on appelle la tour César, c'est en réalité la tour d'argent. La tour Bombec est toujours la tour Bombec et la tour de l'horloge l'est aussi. Ce sont des tours qui datent du XIVe siècle. Donc, dans ce décor, là, je tiens à vous montrer un petit détail amusant. Si j'ouvre cette petite trappe qui est dans le mur, vous voyez une sorte d'ancien téléphone. En réalité, une trompe en cuivre, un peu comme ce que l'on trouve sur les bateaux. Vous savez, quand on veut parler, on crie dans une trompe en haut sur le pont et puis ça va jusque dans la soute ou dans la cale. Il pouvait ainsi correspondre avec le surveillant-chef de la conciergerie, qui est en dessous de nos pieds. Voilà, donc je referme délicatement la porte et personne ne le sait, personne ne sait que ça existe derrière ce décor boisé, mais ça reste caché et c'est ça aussi le palais de justice, c'est plein de choses cachées.
L'escalier vers le haut permet de monter un petit peu et si on essaye d'entamer l'ascension, nous tombons sur des toutes petites fenêtres en forme de meurtrière. Il donne un tout petit peu de jour.
Encore un peu d'escalade et nous parvenons au sommet de la tour de l'horloge.
Oui, alors écoutez, je suis un petit peu essoufflé, pardonnez-moi, mais j'essaye de reprendre à la fois mes esprits et mon souffle. Donc, ben oui, on est tout en haut de la tour de l'horloge, cette tour que l'on voit depuis tous les quais de la Seine, que l'on soit en voiture, à pied, en vélo ou en bateau. C'est un endroit, lui aussi, un peu mythique, parce que on dit que notamment Charles VI le fol, le fou, hein, eh bien, on dit qu'il montait en haut de la tour et puis qu'il était là, nostalgique, à regarder le peuple de Paris. Alors, c'est un endroit intéressant, pourquoi ? Parce que, vous voyez, là-bas, je vous montre la tour Eiffel, tournez-vous, vous voyez le Sacré-Cœur, tournez-vous, faites attention, parce que ça risque de sonner très très fort, le battant, et ça peut nous assourdir. Là, vous voyez le tribunal de commerce, juste à vos pieds, en face, de l'autre côté du boulevard du Palais. Tenez, retournez-vous, là-bas, vous voyez le pont Marie. Et là, le pont Alexandre III. On a une vue ici tout à fait unique. C'est à cet endroit, en haut de la tour de l'horloge du Palais de la Cité, qu'on a la seule vue à Paris sur 13 ponts.
Vue imprenable également sur une autre tour de sinistre mémoire, la tour Bombec.
Pourquoi Bombec ? Eh bien parce que Bombec, à l'origine, ça veut dire bonne bouche. Qui est-ce qui a bonne bouche ? Ben celui qui passe aux aveux. Donc en réalité, c'est terrible, mais c'est la salle de la torture. C'est là qu'on trouvait la justice criminelle, et c'est là aussi que Fouquier-Tinville, le redoutable accusateur public de la Révolution, du tribunal de la terreur, c'est là qu'il avait installé son bureau. Dans les sous-sols, on pratiquait la question, c'est-à-dire on torturait les prévenus, les accusés, les suspects, en leur broyant les os des jambes, on appelait ça les brodequins, ou bien en leur faisant avaler de force de l'eau dans des cornes. Et alors quand il n'y avait qu'un peu d'eau, ça s'appelait la question ordinaire, et quand on doublait la dose, c'était la question extraordinaire. Vous imaginez bien que rien qu'à la vue des cornes et du seau d'eau qu'il allait falloir ingurgiter, même les innocents passaient aux aveux, bien évidemment. Quand les gens mouraient, bien on les jetait au fond. Et puis, quand la Seine montait, bien, elle charriait les cadavres.
Retour au cœur du palais. Côté place Dauphine, cette fois, nous retrouvons l'archiviste Ozanam au sein du vestibule de Harlay, le siège des grandes assises.
On a un immense vestibule, colossal, dans un style qu'on pourrait qualifier de mégalomano-babylonien, hybride, tel que le Second Empire savait en faire, colossal, d'une hauteur vertigineuse, avec un décor sculpté très sophistiqué. Et puis, on a un escalier à double rampe. Les hommes du Second Empire avaient conçu deux cours d'assises. Par une ironie de l'histoire, on a fini par en supprimer une qui ne servait plus. Et il faut le savoir, le palais de justice de Paris a vocation à accueillir l'ensemble des procès pour actes de terrorisme. Donc une affaire corse comme l'assassinat du préfet Erignac par Ivan Colonna, elle a été jugée ici.
Novembre 2007, lorsque s'ouvre le premier procès Colonna, Dominique Paganelli, chroniqueur judiciaire, est là. Il n'a rien oublié de ce frisson d'assises.
Colonna a été recherché pendant des années, 4 ans, et le voici maintenant devant la cour d'assises. C'est la première fois, pour la plupart d'entre nous, que nous voyons cet homme dont la seule photo est celle qui était affichée sur les panneaux des commissariats, des endroits publics, où on le voyait cheveux longs. Là, il n'a pas du tout le même aspect. Cheveux courts, trapus, assez sûr de lui, il ne semble pas avoir peur, il semble déterminé et dans le box, il est d'un calme absolu.
Le berger de Cargès est reconnu coupable et lorsque tombe le verdict,
Colonna va se tourner vers sa sœur et son père et dire en Corse, ne pleurez pas. À ce moment-là, la sœur de Colonna a au téléphone le fils de Colonna et elle lui dit en Corse, je t'assure, il a pris 20 ans mais on va le sortir, je t'assure Jean-Baptiste, on va le sortir. On va le sortir.
Mais le palais, c'est aussi une prison avec ses cellules situées sous les assises. Nous y arrivons en compagnie du procureur Madrange.
Oui, on est dans une cour et une cour qui est très surveillée, comme vous pouvez le voir, beaucoup de véhicules de police, car c'est dans cette cour que se trouve la porte du dépôt. Alors, il faut savoir que dans un palais de justice, il y a des cellules, forcément. Il y a des gens qui sont incarcérés, des gens qui sont, à la sortie de leur garde à vue, conduits au palais de justice avec des menottes et donc enfermés le temps qu'ils puissent passer devant un magistrat du parquet, un juge, un tribunal, une cour d'assises. Donc, il y a parfois jusqu'à 100, 120, 150 personnes qui sont déférées au dépôt. Donc, c'est un lieu souvent bruyant, parce qu'évidemment, un certain nombre de personnages qui sont arrêtés n'ont pas du tout envie d'être incarcérés. Donc, parfois, ils hurlent la nuit, ils crient, ils réclament.
Vous sortez du dépôt, là ?
Ouais.
Ils sont quatre petits délinquants condamnés pour vol. Ils quittent le dépôt, enfin libres.
C'était comment, le dépôt ?
Il y a des gens gentils. Il y a des gens moins gentils, il y a des gens très gentils.
C'est propre ?
Non, c'est pas propre.
C'est pas propre. On est contre des cafards.
Regarde. Tu peux en sentir ? J'ai mis du Chanel.
Oui, je sens.
Ouais. T'as vu ?
Et le dialogue s'engage avec le procureur Madrange.
Vu que les juges sont sympas, vous allez recommencer dès ce soir ou...
Ouais. Moi, je recommence. Moi, ma vie, c'est du vol et de vendre du cannabis.
Ah bon ?
Oui. Parce que je veux devenir riche.
Oui, mais c'est vraiment rentable actuellement. Hein ? Il y a beaucoup de concurrence, c'est rentable actuellement.
Il y a beaucoup de concurrence, oui. C'est pas donné à tout le monde pour faire ça.
Donc ça vous rapporte combien par jour en moyenne ?
200, 300 euros, voilà.
C'est l'argent et vous le rendu, donc. Le risque avec la récidive, c'est la peine ferme. Après, dans des prisons comme Fresnes ou comme Fleury, ça vous fait pas peur un petit peu des
fois ? Fleury, c'est peur.
Et ça vous incite pas à arrêter et à trouver autre chose ?
Non.
Bon, ben...
Bonjour, Annie.
Ouais, essayez de trouver un boulot honnête, ce serait peut-être...
Inch'Allah.
Allez, bon, au revoir.
Bonjour, Annie.
Ligne 13, terminus, porte de Clichy. De verre et d'acier, le nouveau tribunal se dresse dans le ciel du nord parisien. Jean-Michel Etcheverry du ministère de la Justice nous accueille au Batignolles dans la nouvelle salle des pas perdus.
C'est une cathédrale de lumière, 5000 m², 90 salles d'audience qui se trouvent organisées autour de cet atrium sur l'équivalent de 8 étages. Beaucoup de lumière aussi, la lumière qui vient du plafond et de la lumière qui vient aussi de la façade, puisque ça c'est une grande première dans la construction des palais de justice. C'est que alors que pendant très longtemps, vous savez qu'on a construit des palais de justice qui se cachaient en quelque sorte derrière leurs colonnades et qu'il fallait rejoindre après avoir escaladé un escalier monumental, ici, il n'y a pas d'escalier monumental. Au contraire, la salle des pas perdus donne pleinement sur le parvis, sur l'extérieur, sur la vraie vie des Parisiens, avec cette façade qui est totalement vitrée et qui est totalement en correspondance avec la ville de Paris.
Bernard Plattner, du cabinet Renzo Piano, en est l'architecte.
Il vous plaît ce bâtiment ?
Plutôt. On a peut-être inventé quelque chose qui dépasse les choses tout à fait courantes et à quelles on s'attend. Et comme on veut quand même réformer les choses, comme par exemple le fonctionnement de la justice, eh bien, il faut bien faire un bâtiment qui surprend un peu. C'est pas beau à impressionner, c'est tout simplement un lieu qui doit influencer le respect, pas nécessairement être oppressant.
Le tribunal ! De la cité au Batignolles, d'un palais à l'autre, un grand reportage de Franck Alexandre, réalisation Françoise Grelot.